This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Merci d'écouter CFM Radio pour une émission entièrement consacrée à l'aventure spatiale et la planétologie. Dans le cadre de la 7e édition de la manifestation Le Ciel sur Corde, qui se tient dans le Tarn du 26 juillet au 2 août et organisée par la mairie de Corde-sur-Ciel avec la précieuse et importante participation du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. L'occasion est belle pour nous de conjuguer dans un magnifique cadre patrimonial qu'offre la cité médiévale de Corde-sur-Ciel et la science de l'espace. Il y a des conférences, des expositions, des ateliers pédagogiques qui émaille la programmation de ce ciel sur corde depuis plusieurs années maintenant. L'an dernier, le focus au vu de l'actualité était sur Thomas Pesquet et son aventure durant un peu plus de 6 mois à bord de l'ISS. Thomas Pesquet était d'ailleurs venu à Corde raconter la préparation de son voyage, son séjour à 400 km au-dessus de nos têtes, son retour, ses souvenirs, une conférence mémorable et inoubliable. Cette année, la 7e édition est placée sous l'égide de l'exploration spatiale et de la planétologie. Il est question des futures, voire des missions en cours menées par les équipes du CNES vers des planètes, que soit Mars ou Mercure, et l'astéroïde Ryugu. Et c'est en particulier de cette mission, le projet Hayabusa 2 Mascotte, que nous allons parler dans ce numéro spécial du Ciel sur Corde. Une mission interagence qui permettra de mieux comprendre et de mieux saisir la formation du système solaire. Pour nous éclairer, Aurélie Moussy du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Bonjour Madame Moussy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur les ondes de CFM Radio. Vous avez été responsable scientifique sur la mission Rosetta, la précédente mission du CNES sur un astéroïde. Nous allons l'évoquer. Vous avez aujourd'hui la lourde tâche de vulgariser et de rendre accessible les tenants et aboutissants de cette mission, la mission Hayabusa 2 et Mascotte, un projet qui dure depuis des années et dont une partie des objectifs devrait être atteint au mois d'octobre prochain, pratiquement 4 ans de voyage dans l'espace. Mais on va démarrer par un tout petit peu de pédagogie pour savoir de quoi on parle. En quelques mots, la définition d'un astéroïde, c'est quoi?
Alors, pour faire simple, un astéroïde, c'est un gros bloc de roche qui voyage dans l'espace. On va faire simple.
Très bien. Donc, composé de roches, on peut aussi retrouver des métaux, de la glace.
Exactement. Mmh. Des métaux, des molécules assez complexes à base de carbone. Là, c'est ce qui nous intéresse sur notre astéroïde Ryugu. On a une composition qui peut être assez complexe, mais qui a quand même une base rocheuse.
Ok. Leur taille varie de quelques mètres, de diamètre à plusieurs kilomètres. Ils voyagent à travers le système solaire. C'est toujours selon un schéma bien défini, je crois, Madame Moussy, une orbite souvent en forme plutôt d'ellipse, contrairement aux planètes comme la Terre.
Oui, tout à fait. En général, la plupart des astéroïdes se situent dans ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, on n'est pas très originaux, qui se situent au-delà de l'orbite de Mars. Et on a, pour certains astéroïdes, la chance de pouvoir avoir l'orbite de la Terre qui croise leur orbite. On appelle ça les géocroiseurs.
Ok. Donc la plupart des astéroïdes sont donc concentrés entre Mars et Jupiter. C'est la fameuse ceinture d'astéroïdes dont vous parlez. Et puis au-delà de Neptune, on retrouve la ceinture de Kuiper. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce qu'il y a une raison à cette concentration de ces astéroïdes dans ces zones particulières?
Alors oui, pour faire simple, en fait, c'est parce que les astéroïdes sont, c'est pour ça que ça nous intéresse d'ailleurs, des restes de la formation du système solaire. Et en fait, ils se situent, grosso modo, pour le commun des mortels, à la zone frontière entre au-delà de laquelle ils n'ont pas pu s'agglomérer en planète. Tout ce qui est plus près du système solaire a réussi à s'agglomérer, la roche s'est agglomérée à former des planètes, dont la Terre. Et puis au-delà, on a les planètes gazeuses. Donc les astéroïdes se situent à la frontière, si je puis dire, entre les deux zones de notre système solaire.
Mmh. Le tout premier astéroïde découvert c'était en 1801, se nomme Zérès. Il fait 950 km de diamètre. C'est une planète naine, vu la taille qu'il fait, cet astéroïde. Et depuis les années 1800, c'est environ 400 000 astéroïdes qui ont été répertoriés. Ils sont pour certains particulièrement suivis, surveillés, vous en avez parlé, car ils sont géocroiseurs et donc potentiellement dangereux pour la Terre parce qu'ils peuvent rentrer dans notre atmosphère et causé pas mal de dégâts. Il semble que c'est un peu l'origine ou en tout cas la cause de l'extinction des dinosaures. C'est de la cohabitation spatiale, Madame Moussi, avec des avantages et des inconvénients, comme ce potentiel risque de collision. Et parmi les avantages, il y a celui de pouvoir donc aujourd'hui suivre, étudier, surveiller ces astéroïdes. Il y a la possibilité d'en apprendre un peu plus sur la formation des planètes et au-delà de sur notre système solaire. Est-ce que c'est aujourd'hui un risque de collision est envisageable dans des siècles qui viennent? Qu'est-ce qui peut provoquer leur sortie orbitale elliptique?
Alors en fait, je vais vous répondre simplement, à l'échelle humaine, à notre échelle de vie, la probabilité est quasiment nulle d'avoir un impact catastrophique pour la planète Terre. On ne peut pas avoir peur des gros méchants astéroïdes, en tout cas pas à ce point. Après, bien évidemment, quand on parle des échelles de temps très très longues, c'est une probabilité à envisager. D'où le fait qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, je pense, a été créée une journée mondiale des astéroïdes pour sensibiliser toutes les nations au risque potentiel de collision avec la Terre, et dans le but d'inciter les agences à observer, étudier, analyser ces astéroïdes, mieux les connaître, pour adapter nos systèmes de prévention au sol. Bon, plus près de nous, je sais qu'il y a eu, peut-être certains ont déjà entendu parler, ou les fans de X-Files peut-être ont entendu parler, un astéroïde qui s'est crashé à Tunguska en Sibérie, qui a décimé des hectares de forêt, mais ce sont des événements très très rares.
Très rares, ok. Après le succès de la mission Philaer aux États il y a quelques années, le CNES, aujourd'hui en collaboration avec l'agence japonaise d'exploration aérospatiale, la JAXA, et le pendant allemand, le DLR, vous travaillez depuis plusieurs années donc à une mission qui est délicate, hein, et ce sera une première. Il faut amener non seulement une sonde en orbite autour de l'astéroïde Roigu, un atterrisseur à la surface de cet astéroïde qui pourra non seulement se déplacer par petits sauts, mais aussi recueillir des échantillons. Il faudra ensuite ramener ces échantillons sur Terre. La mission Hayabusa 2 Mascotte, expliquée dans quelques instants par Aurélie Moussi, chef de projet Mascotte auprès du CNES, et avec nous sur CFM dans le ciel sur corde.
CFM.
Come my people,
now you ready to ride?
Comment ce sera l'objet d'une conférence ce jeudi 26 juillet à 20h30 sous la halle de la cité de Cordes-sur-Ciel dans le cadre de la 7e édition du Ciel sur Corde, le rendez-vous du spatial proposé par le CNES et la mairie de Cordes-sur-Ciel. Aurélie Moussi, chef de projet au CNES, donnera cette conférence et elle est avec nous aujourd'hui sur CFM. Madame Moussi, voilà pratiquement 4 ans, depuis décembre 2014, que la sonde Hayabusa 2, développée par la JAXA, l'agence japonaise du spatial, a été lancée. Il y a quoi? La distance à parcourir, c'est plus de 3 milliards de kilomètres dans l'espace, c'est ça,
C'est ça, on a parcouru plusieurs milliards de kilomètres. On ne peut pas aller en ligne droite vers l'astéroïde, tout simplement parce que l'attraction terrestre nous empêche de nous extraire comme ça aussi facilement. Mmh. Donc on a dû faire des tours et des détours de système solaire avant d'arriver au rendez-vous. On appelle ça un rendez-vous avec l'astéroïde. Mais l'astéroïde, quant à lui, si on à vol d'oiseau depuis la Terre, n'est qu'à 300 millions de kilomètres.
Ok. Deux
unités astronomiques.
Ah oui, donc il a fallu y aller en zigzag. J'imagine qu'on n'est pas à 80 km heure, là, hein, comme c'est le cas sur les routes aujourd'hui, sur certaines routes aujourd'hui.
Non. Et donc là, il nous a fallu le fait qu'il nous ait fallu 3 ans et demi mm-hmm. pour arriver à proximité de cet astéroïde. Par contre, à noter, le chemin retour, fin 2009, une fois qu'on aura fait toute la mission, le chemin retour vers la Terre va être plus court, il va durer à peu près 1 an. Tout simplement parce que Ryugu ne dispose pas d'un tout petit objet, donc ne dispose pas d'une gravité suffisante pour nous retenir, donc mm-hmm. c'est très simple de s'en échapper.
Okay.
Et aussi parce que là, avec la Terre, on ne s'occupe pas de faire un rendez-vous bien prévu, bien programmé, à la même vitesse qu'un objet, tout en douceur. Là, on y va à franco, et l'objectif, c'est de ramener une capsule qui va de toute façon traverser l'atmosphère, peu importe la vitesse.
Quel est dans le cadre de ce projet, Madame Moussi, qui regroupe, je le rappelle, les agences japonaises, allemandes et françaises du spatial, quelle est la contribution du CNES ?
Alors, le CNES, c'est la France, est particulièrement impliqué dans l'atterrisseur, Mascotte, donc c'est un atterrisseur franco-allemand. La mission, quant à elle, la sonde, elle est japonaise, et donc on a également des scientifiques français. Partenaires des équipes instrumentales à bord de la sonde. Mais le gros du travail du NEF s'est concentré sur cet atterrisseur qui est en quelque sorte le petit frère de Philae. Mmh.
Quand vous dites atterrisseur, c'est un robot, en quelque sorte un petit robot.
Exactement, c'est un petit robot. Alors, il n'a pas de pied ni de roue, il se déplace par rebond, mais c'est un robot. Tout à fait. Autonome, avec ses instruments, sa source d'énergie et ses moyens de communication.
L'astéroïde Ryugu, qui a été découvert il y a une vingtaine d'années maintenant, un diamètre de 900 mètres, hein, il est présenté, Ryugu, comme un astéroïde incroyable pour la communauté scientifique. Qu'est-ce qu'il a d'incroyable, cet astéroïde ?
Alors, il a été choisi parce qu'il fait partie d'une classe bien particulière d'astéroïdes qui s'appelle les astéroïdes carbonés, de type C. Et en fait, il s'agit des objets les plus anciens du système solaire. Donc, on espère vraiment beaucoup on espère découvrir dans ces astéroïdes de l'eau, tout d'abord, mm-hmm. et molécules carbonées assez complexes qui seraient apparentées à des briques de la vie pour nous sur Terre. Mm-hmm. Et donc, c'est très important parce que la Terre ne nous permet pas de remonter au passé, à la date à laquelle elle s'est formée. Et là, c'est au moins une capsule temporelle, si je puis dire. Mmh. La Terre, oui, c'est une vraie capsule temporelle qui n'a quasiment pas bougé depuis cette époque. Et donc, un des objectifs principaux de l'étude des petits corps, pas que astéroïdes, comètes et astéroïdes, c'est d'éventuellement prouver ou réfuter la théorie la plus courante actuellement, qui considère que l'eau qui se trouve sur Terre et les briques essentielles à l'apparition de la vie ont été apportées par des collisions avec des comètes et des astéroïdes.
Mmh. Donc du carbone, de l'eau, là on est purement dans l'étude de l'origine de la vie d'une certaine manière, hein, mais aussi de la compréhension du système solaire. Est-ce qu'il est vrai que la formation du système solaire se situerait à environ plus de 4 milliards d'années Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations par ça au niveau scientifique, quelles sont les connaissances sur la formation du système solaire ?
Oui, tout à fait, ça remonte à plus de 4 milliards d'années. On a, donc au départ c'était... Je vais faire très simple. Là. Au départ, une nébuleuse gazeuse, quelque chose qui ressemble vraiment aux nébuleuses qu'on peut observer actuellement dans le ciel quand on observe. Mmh. Et puis cette zone de gaz s'est condensée. C'est condensé tellement que ça a produit de la matière solide qui petit à petit a créé le soleil en son centre, mmh. Régi par des réactions nucléaires, tout simplement. Source d'énergie pour ce système en formation. Et petit à petit, la matière s'est agglomérée, a réussi à former au plus près du Soleil les planètes, les protoplanètes d'abord, puis les planètes solides, et un peu plus loin, les planètes gazeuses géantes. Mmh. Donc ça s'est fait sur des centaines de millions d'années. Ça n'a pas été un processus immédiat.
Mmh. Vous êtes là en train, vous venez de nous résumer en 30 secondes, si j'ai bien suivi, le Big Bang en fait là.
Là, on est après le Big Bang, on est la formation du système solaire.
Ok, donc le Big Bang, c'est plutôt général, quoi. C'est la formation de tout, de la galaxie. C'est quoi, là, je suis vraiment en train de nager. Ok, très bien. Elle est située, donc, cette planète Origo, à plusieurs millions de kilomètres de nous. Vous avez décidé d'aller sur celle-là parce que les raisons, c'est la présence potentielle de molécules, de carbone et peut-être d'eau sur cette planète. C'est la seconde tentative, hein, pour, je parle de planète, non d'astéroïde, hein, c'est la seconde tentative pour aller sur Origo. Quelle était la difficulté de la première mission à Hayabusa?
Alors, la première mission des Japonais de récupération, pour l'instant, eux seuls sont capables de récupérer des échantillons sur des petits corps et les ramener sur Terre. La première mission, qui s'appelait donc Hayabusa 1, a dû essuyer, alors avec comme objectif un astéroïde également, mais pas de type carboné, un astéroïde de type rocheux basique, on va dire. Pour la première tentative, ils ont choisi un astéroïde simple. Et ils ont dû essuyer beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Ce qui a fait que, mais malgré ça, elle aurait réussi à aller au bout de la mission et récupérer mais des poussières minuscules, quelques poussières d'astéroïdes. Cette mission a choisi donc un astéroïde plus intéressant pour la science et a permis aux Japonais de perfectionner leur système de collecte d'échantillons, tant et si bien qu'on espère récupérer beaucoup plus de matière.
Et ce sera aussi l'objectif de cette mission Hayabusa 2 Mascotte, bien évidemment d'étudier les astéroïdes, d'en savoir un peu plus, mais aussi de prélever de la poussière, hein, pour la ramener sur Terre, pour qu'elle puisse être analysée. C'est l'objectif de cette mission Hayabusa 2 Mascotte. On en parle aujourd'hui sur CFM avec Aurélie Moussi.
I become your daughter and diogenes that I have taken. Beautiful things happen and sometimes the will is absent. Today I take my heritage no matter the cost. No matter the cost, no matter the cost, no matter the cost. Your life is a list, and some will change your death. In suffer, your child will receive. A number snuffer. Thank you, Daddy, for not having told me to come. For not having told me to come. Really sick. Cause we are your children, doing everything to hold off the syndrome wind. A warm birth, so different and fine. A balance between giving and receiving to form a chain.
CFM, l'esprit rock.
La mission Hayabusa 2, mascotte développée, ou en tout cas pour lequel collabore le CNES, l'agence spatiale française. Hein. Il y a également les Japonais, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, la DLR des Allemands qui sont mis en collaboration pour envoyer une mission autour d'un astéroïde Roigu qui va permettre d'en savoir un peu plus sur la formation du système solaire et peut-être d'en savoir un peu mieux aussi sur l'origine de la vie. Le challenge est en même temps on va dire l'événement de cette mission, Madame Moussi. C'est une première car l'objectif est de déposer un robot, petit robot qui va se déplacer à la surface de l'astéroïde. Alors qu'est-ce qui va faire ce robot, Madame Moussi?
Alors tout à fait, ce robot, il est très important pour les Japonais également, parce qu'en fait, c'est notre éclaireur, c'est l'éclaireur de la mission. Ça va être le premier à pouvoir se poser sur l'astéroïde et faire des analyses in situ, sur place en fait, de la matière, du sol, de l'astéroïde en lui-même. Mmh. Et c'est très important parce que la mission, en fait, c'est ce qu'on appelle la vérité terrain. Alors, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mmh. On a le satellite en lui-même qui a des instruments à son bord qui observent l'astéroïde à distance, à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. On en déduit une idée de la composition, de la structure de l'astéroïde, mais à grande échelle, à très grande échelle. On a ensuite la partie finale, si je puis dire, de la mission, qui est la récupération d'échantillons, qui permet, une fois analysé sur Terre, d'avoir une étude microscopique, vraiment, de la matière. Mais sans mascotte, donc mascotte fait le lien entre ces deux étapes et permet d'avoir de confronter les différentes échelles. Mascotte va faire l'analyse sur place d'abord, donc aucune perturbation quelconque, et à une échelle du millimètre, du centimètre, voilà, qui permet de faire le lien entre la récupération d'échantillons et l'observation à distance. C'est l'unique essentiel pour permettre aux scientifiques de valider ou pas leur théorie.
Alors, Mascotte, c'est vraiment le bébé du CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales, le projet que vous, pour lequel vous êtes chef de projet auprès du CNES. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des équipements scientifiques qui sont à bord de cette sonde, hein? On est bien au-delà du simple microscope, là, j'imagine.
Oui, bien sûr, c'est un robot. Alors, dans un objet de la taille d'une boîte à chaussures, hein, c'est une boîte à chaussures, mais de luxe, on va dire.
Ouais.
On a différentes choses. On a déjà un dispositif, donc ça s'appelle des batteries, une pile qui nous permet de tenir 12 à 15 heures. C'est très court, donc on a beaucoup de choses à optimiser pour faire une mission, qui est en fait issue de la même batterie que celle que j'ai pour Fidei, elle a fait ses preuves, donc on a repris une équipe qui marche. On a ensuite tout ce qui sert à faire fonctionner le robot en lui-même, donc le logiciel, son logiciel, son cerveau, si je puis dire, les antennes pour communiquer avec l'IA12A2, parce qu'on est trop loin pour que le petit atterrisseur, le petit robot puisse communiquer directement avec la Terre, on utilise la sonde en relais. Mmh. Et on a quatre instruments. Donc on a une caméra, un magnétomètre pour étudier les ondes gravitationnelles, un radiomètre pour analyser la réponse du sol en température, et instrument principal, l'instrument français, s'appelle Microméga, a été développé par un laboratoire parisien, l'IAS. Le scientifique chef de cet instrument est Jean-Pierre Dibling, qui était déjà embarqué dans l'aventure Philae. Mmh. Et donc cet instrument est le seul embarqué qui va permettre d'avoir une composition vraiment du matériau. C'est un spectromètre hyperspectral infrarouge. Mmh. C'est un objet compliqué. Tout ça pour dire qu'il a besoin d'avoir son objectif au contact avec le sol, ce microscope. Et à partir de ce contact avec le sol, il arrive à déduire la composition du matériau.
Mmh. Donc le spectromètre, le robot prélève des échantillons, il le passe dans le spectromètre qui va, entre guillemets, tamiser toute la composition de la poussière recueillie. C'est un peu ça, hein, si j'ai bien compris.
Alors, il n'a même pas besoin, on ne récolte rien, on reste juste, on le regarde. Okay. Juste en le regardant, le sol, on arrive à en déduire sa composition.
Ah ouais, quand même. Là, c'est quand même pas mal. Là.
C'est de la belle technologie. Je
perds mes mots parce que tout cela concentré dans une boîte à chaussures et il a fallu, j'imagine, tout miniaturiser. J'imagine aussi que ça a été un des principaux challenges de pouvoir faire tenir toute cette technologie dans une boîte à chaussures et en plus qui doit être robuste car le voyage est long et dangereux. Est-ce que vous pouvez nous parler, un tout petit peu des étapes? Comment déjà on parvient à prévoir tout ça? Autant sur Terre, je le comprends. Mais là, d'envoyer quelque chose qui va faire des milliards de kilomètres parcourir des milliards de kilomètres pour aller finalement en terre inconnue.
Oui, c'est tout toute la difficulté de ce genre de mission d'exploration. Parce que je pense qu'à la conférence, vous verrez, il y a aussi des missions martiennes qui sont, entre guillemets, plus simples à préparer parce qu'on est déjà beaucoup de choses sur Mars. Quand on part sur des petits corps comme ça sans savoir à quoi s'attendre, on est obligé de tout prévoir, sachant qu'en plus, en général, ce qui arrive et ce qu'on n'a pas prévu. La difficulté, c'est de trouver un compromis entre la robustesse et la simplicité, on va dire, des systèmes et la qualité de la science produite à la fin. Mmh. Nous, le plus gros, à chaque fois, Philae, c'était déjà le cas, le gros défi, c'est, on a tendance à vouloir tout occuper l'espace disponible, ce qui est super. Le plus gros défi, c'est de faire en sorte que notre source d'énergie suffise à alimenter tous ces instruments. Mmh. Parce que là, on a, pour vous faire simple, l'énergie dont on dispose à bord de Mascot, c'est l'équivalent de 2 heures de PlayStation.
Ok, d'accord.
Et avec ça, il faut réussir à faire se déplacer le petit robot, à communiquer avec la sonde, à faire toutes les expériences, c'est énorme.
Bon alors, la mission a démarré en soi hein, depuis décembre 2014. L'objectif devrait être atteint en octobre 2018, là. Où en est-on de cette mission?
Alors, le 27 juin dernier, donc c'est tout récent, mais même pas un mois, nous sommes arrivés à destination. Alors, à destination, c'est-à-dire que la sonde Hayabusa 2, avec Mascot embarquée, hein, pour l'instant Mascot est attachée à la sonde vaisseau mère, est à 20 km de l'astéroïde. C'est pas vraiment une mise en orbite parce que Ryugu est trop petit pour avoir une gravité qui permette de se mettre en orbite. Donc on ne tourne pas autour. On reste à 20 km, on le suit et on regarde l'astéroïde tourner. Mm-hmm. L'astéroïde tourne sur lui-même en 7h30 à peu près. Cette phase d'observation va durer tout l'été. Mm-hmm. Et l'idée, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur l'astéroïde. Donc, en termes de quantité de rochers au sol, de dureté de la surface, de température de la surface, de durée du jour et de la nuit, de la gravité, de tous ces paramètres qu'on ne connaît pas. Hein, parce que jusqu'au 27 juin, on n'avait jamais eu d'image précise de l'astéroïde. On est parti vers une cible et on avait tout ce qu'on avait, c'était quelques pixels observés depuis un télescope sur Terre. Mmh. Donc, toute cette phase vise à améliorer notre connaissance pour qu'on puisse choisir le meilleur site d'atterrissage possible. Mmh. Ce site va être choisi à la fin du mois d'août. Mmh. Et une fois que ce site sera choisi, on va faire la dernière préparation pour les opérations sur l'astéroïde. Et Mascot va être largué de Hayabusa 2 début octobre. Donc, c'est-à-dire que la sonde, le satellite, va s'approcher très très près de l'astéroïde, à 560 mètres d'altitude, et en rase note, lâcher Mascot, qui va descendre pendant environ 10 minutes, ce sera une chute libre. Il n'y a rien, il n'y a pas de propulsion, on a rien à bord de Mascot qui l'aide à descendre. Mm-hmm. On va donc descendre, puis Mascot va rebondir sur le sol. En fait, on suppose qu'il va rebondir, la gravité étant tellement faible et on n'a pas de système d'ancrage ni de harpon comme sur Philae. On suppose qu'il va rebondir un certain temps, quelques dizaines de minutes, on suppose. Mm-hmm. Puis il va faire fonctionner tout ces instruments pendant 2 jours, 2 nuits sur l'astéroïde et envoyer un maximum d'informations au sol. Là, ce sera arrivé à la fin de sa pile, quand la pile va être vide, ça sera la fin de Mascot. Donc, il va mourir de sa belle mort sur l'astéroïde, après avoir bien sûr envoyé toutes les données au sol. Donc là, nos scientifiques vont avoir des mois, des années d'études en perspective. Mm-hmm. Mais la mission se poursuit. Hayabusa 2, avec ses données précieuses, va pouvoir préparer ses atterrissages. C'est collecte l'échantillon en fait. La sonde Hayabusa 2 va arriver à une sorte de trompe sur son satellite, enfin, il y a une sorte de trompe qui va aller au contact avec le sol, récupérer des poussières, donc le faire 3 fois. Et on est complètement dans la science-fiction parce que, en plus de ça, qui est déjà un défi en soi, entre la deuxième et la troisième collecte d'échantillon, une charge explosive va être envoyée sur le sol pour créer un cratère dans lequel on pourra aller récupérer de la matière plus profondément et donc, j'espère, encore moins exposé à l'environnement spatial, qui nous donnera encore plus d'informations sur la composition du système solaire à sa formation. Et puis, tout ça va être mis dans une capsule, toute la matière, et le satellite va repartir fin 2019 pour la Terre, il arrivera sur Terre fin 2020, et ensuite, on a des années, des dizaines d'années d'études en perspective au sol par nos scientifiques pour comprendre les mystères de cette matière extraterrestre.
Donc en gros, la mission mascotte larguée sur l'astéroïde Roigu par petits bonds fera et par observation aussi permettra d'analyser la structure de l'astéroïde. La sonde Hayabusa 2, elle est munie d'une charge explosive qui sera tirée afin de provoquer un cratère qui permet de libérer la matière contenue dans, on va dire, la surface profonde de Roigu, de l'astéroïde Roigu. Tout cela collecté, embarqué, réembarqué sur la sonde Hayabusa 2 et qui fait demi-tour et qui revient sur Terre en 2020 tranquille, pas de problème quoi. Voilà l'idée.
Tout à fait. Mascotte, c'est une brique de c'est un énorme travail d'équipe, cette mission. Et Mascotte est une des briques essentielles en tant qu'éclaireur, mais pas la dernière étape de cette mission, effectivement.
Bon, alors, ça paraît très simple comme ça. Là, c'est simple comme mission. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas de quoi stresser. Hein?
Effectivement. C'est ça. Mais en fait, toute la difficulté, comme je vous dis, c'est qu'on ne connaît rien de l'astéroïde. Nos ingénieurs ici au CNES à Toulouse passent leur temps à faire des calculs et des calculs pour prédire comment un dé va retomber sur une surface qu'on ignore.
Ah.
C'est tout l'enjeu de cette chose.
Ah, mais c'est très bien, ils doivent s'amuser. Vous nous dites que vous n'en savez rien, mais je suis sûr que vous nous racontez presque un petit mensonge, parce que depuis fin juin, vous en savez un peu mieux. Les premières images de l'astéroïde Roigu sont connues. Vous nous en parlez dans un instant, Madame Moussi.
CFM.
De Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.
Slaughter. Oh,
Aurélie Moussier, chef de projet mascotte auprès du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et ils ont eu l'ingénieuse idée de travailler avec les agences spatiales japonaises et allemandes pour envoyer un véhicule à travers l'espace pour plus de 3 milliards de kilomètres de voyage. Ce véhicule est à proximité maintenant et est plus qu'à 20 kilomètres de son objectif, l'astéroïde Roigu, qui est un peu un ancêtre de notre système solaire. L'étude de cet astéroïde permettra d'en savoir un peu plus sur la formation du système solaire, sur les planètes et peut-être répondre à la question, l'une des questions existentielles, l'origine de la vie. Peut-être par cette mission en saura-t-on un peu plus sur les origines de la vie. Madame Aurélie Moussy est toujours avec nous sur CFM Radio et elle arrive vraiment, restez avec nous si vous nous rejoignez, à rendre très accessible que ce soit les données spatiales, de l'aventure spatiale, expliquer aussi cette mission très délicate d'Hayabusa 2 et Mascotte qui a démarré au mois de décembre 2014 et qui devrait atteindre son point d'âge, un des objectifs principaux dans les mois qui viennent, ce sera au mois d'octobre. La fin de la mission est prévue en décembre 2020 avec le retour sur Terre de la sonde Hayabusa 2 qui sera chargée de quoi? De quelques milligrammes, de quelques grammes, ou est-ce qu'on peut parler de kilos d'échantillons prélevés, Madame Moussy?
Oula non, on est plus dans le milligramme, effectivement. On est on a la place qui est limitée et puis et donc la capsule qui remporte ces échantillons sur Terre et le compartiment dans lequel ils sont stockés est assez petit. Mm-hmm. Donc ça va être plutôt des milligrammes, voire des grammes, mais milligrammes, on va partir là-dessus.
Ok, je me permettais il y a quelques minutes de vous taquiner par rapport aux connaissances que vous avez déjà sur l'astéroïde Roigu, parce que lors du lancement, ou en tout cas lors de l'initiation de cette mission, vous ne saviez pas grand-chose sur l'astéroïde vers lequel se dirige la sonde Hayabusa 2. Depuis quelques semaines maintenant, la sonde est arrivée à proximité de l'astéroïde Roigu depuis le 27 juin. Il y a des images qui sont transmises dorénavant sur Terre, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur la surface, sur la structure de cet astéroïde. Qu'est-ce qu'elle révèle du coup, cette image, dès les premières analyses que vous en avez faites?
Alors, déjà, première analyse, on était plutôt soulagés de voir que la forme était, en tout cas pour nous, proche d'une sphère. C'est une patatoïde pour le commun des mortels, mais pour nous, c'est assez proche d'une sphère. Et surtout, notre plus grande crainte aurait été que ce soit un astéroïde double, qu'on ait deux objets qui tournent, qui se tournent autour. Ça aurait pu être compliqué pour nos opérations d'atterrissage. Mm-hmm. Donc là, c'était un peu le soulagement le 27 juin quand on a vu qu'on avait un seul objet, qu'il avait une forme plutôt sympathique de loin, en tout cas. Petit à petit, le satellite s'est approché de cet astéroïde. Et là, bon, on déchante un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une surface très accidentée, hein, beaucoup de rochers, ce qui peut complexifier notre atterrissage. On n'a surtout pas envie, nous, mascotte, et de la taille d'une boîte à chaussures, il ne faudrait pas que ce petit cube se retrouve coincé entre deux rochers et ne puisse plus bouger. Parce qu'un des objectifs de la mission est, un, d'être en contact avec le sol, qu'une certaine face soit en contact avec le sol pour permettre les analyses, et deux, de pouvoir se relocaliser à un autre endroit pour analyser un deuxième site. Donc ça, c'est ça fait déjà. Bon, là, on attend d'avoir les autres images encore plus près avant d'avoir une statistique de répartition des rochers au sol. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a une première idée de la température de surface. Bon, là, c'est très, très, très liminaire. Ça a l'air un peu plus haut que ce à quoi on s'attendait. Rien de bien méchant, et c'est d'ailleurs pour ça que mascotte, on est obligé d'attendre le mois d'octobre pour faire les opérations, c'est que nos instruments ont besoin d'une température assez faible pour fonctionner, on ne veut pas dépasser 20 degrés à l'intérieur du robot pour avoir de la science fiable. Donc on est obligé d'attendre que l'astéroïde s'éloigne un petit peu du Soleil pour que la surface soit un peu moins chaude. On a déjà eu aussi quelques informations sur la durée du jour et de la nuit à la surface de cet astéroïde. Et là, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On voulait surtout pas, nous, pour mascotte, on a besoin d'avoir des jours du jour et de la nuit. On ne peut pas tomber en journée permanente sous peine d'avoir trop chaud, ni en nuit permanente, parce que là, ce seraient les images qui seraient un peu compliquées à avoir de nuit. Donc, on est plutôt des bonnes nouvelles de ce point de vue-là. On a plutôt un équilibre entre la durée du jour et de la nuit, ce qui est bien pour nos opérations.
Alors, le 14 et 17 août Le 14 et 17 août prochain sera déterminé, hein, le site idéal d'atterrissage de mascotte, hein, le robot qui sera donc lâché sur l'astéroïde Roigu. Quels sont les paramètres qui sont importants pour ce futur site idéal? Vous nous avez parlé voilà, de la surface qui ne doit pas être trop accidentée pour permettre au robot de se déplacer par petits bonds. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres en dehors de cela? Je ne sais pas moi, en fonction des images que vous avez déjà vues, est-ce que vous avez repéré, ah tiens, ce site il peut être intéressant parce que quoi, Madame Moussi?
Alors, on a pour l'instant encore assez d'infos pour que nos scientifiques puissent dire, pour la science, on pense que là, il y a une plus forte chance de trouver de l'eau et des molécules carbonées, donc c'est là qu'il faut qu'on se passe. Ça va venir dans les semaines qui arrivent. Hein. Mais ce qu'on a de plus fort en termes de contraintes, c'est surtout d'éviter les zones qui auront été présélectionnées par nos collègues japonais pour les collectes d'échantillons. Pour une raison toute simple, c'est que Hayabusa 2, pour se guider vers le sol, pour aller collecter les échantillons, donc pour aller au contact avec le sol, lance des marqueurs. En gros, ce sont des petites billes de métal. Et à bord du satellite, on a un laser, un lidar, qui permet, en pointant ces billes de métal, de descendre tout doucement, précisément vers le sol. Et nous, on doit éviter les zones prévues pour collecter les échantillons, parce que sinon, Hayabusa 2 risquerait de confondre mascotte avec une de ces métal. Ah, et donc d'aller au contact avec mascotte, ce qu'on ne souhaite surtout pas.
Mais ça peut aussi permettre d'avoir des échantillons variés, différents, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve entre deux sites, il peut y avoir aussi des variations dans la structure de cette astéroïde de Roigu, je me trompe?
Tout à fait, donc vous avez raison, c'est tout l'enjeu de notre sélection du site d'atterrissage, c'est un processus assez complexe qui implique toutes les équipes, donc les Japonais, les Anglais, les Allemands et nous-mêmes. Et en fait, il faut qu'on trouve des sites similaires, mais pas identiques. Enfin, on doit aller à deux endroits différents de l'astéroïde, pour la première collecte d'échantillons et pour Scott, mais trouver deux endroits distincts, mais avec une signature, une composition qui serait sensiblement la même. C'est tout l'enjeu de la sélection.
Eh bien dis donc, ça a l'air très simple tout ça, un voyage de 4 ans à travers le système solaire avec plus de 3 milliards de kilomètres à parcourir à une vitesse élevée, loin de nos 80 km/h. C'est l'objectif de la mission Hayabusa 2 et mascotte. Hein, Coralie Moussi, qui est chef de projet au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, nous explique aujourd'hui et dans un instant, nous parlerons un peu plus en détail de cela. Voilà des objectifs clairs et nets de cette mission Hayabusa 2 et mascotte.
CFM.
Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men, da da da, and about the believers and how the whole thing began, da da da. First there were women and children obeying the moon, da da da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon. Da da da. You can try to remind me instead of the other you can. Da da da. You can help to ensure that we all insecure our command. Da da da. If you don't give a listen, I won't try to till your new hand. Da da da. This is it, can't you see that we all have our ends in the band? Da da da. Da da da. Da da da. And if all of the teachers and preachers of wealth were arraigned, we could see quite a future for me in the literal sense. And if all of the people could claim to inspect such regrets, da-da-da, well, we'd have no forgiveness, forgetfulness, faithful remorse, da-da-da. Send away, da da da. We must try to find a new answer instead of a way.
Envoyer une sonde dans l'espace, c'est déjà un exploit. Parcourir plus de 3 milliards de kilomètres, en est un autre. Mais alors se mettre à proximité, presque en orbite, hein, autour d'un astéroïde, y faire atterrir un appareil de mesure high-tech aussi grand qu'une boîte à chaussures, un appareil qui, lui, se déplacera sur la surface de cet astéroïde pour prélever des échantillons. Voilà le challenge, hein, en partie accompli par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, hein, dont une des bases importantes est ici, tout près de nous, à Toulouse. Une mission qui est menée en partenariat avec les agences spatiales japonaises, la JAXA, et l'agence spatiale allemande de l'espace aussi, c'est la DLR. Nous en parlons aujourd'hui avec Aurélie Moussy, qui est chef de projet au CNES. Vous avez été responsable, Madame Moussy, responsable scientifique de la précédente mission un peu similaire de ce dont on parle aujourd'hui, c'est Philae Rosetta. Quelles sont les différences, hein, les grosses différences avec cette mission Hayabusa 2?
Alors effectivement, j'étais en charge de la programmation des instruments sur Philae. La grosse différence, je dirais, c'est essentiellement... Alors, première chose, le fait que Chury était une comète. Donc, pour faire simple, une comète, c'est un bloc de glace qui, donc, à proximité du Soleil, se sublime. Donc, la matière se transforme en gaz. Mmh. Et donc, ce dégazage complique énormément les opérations pour le satellite, l'orbiteur, Rosetta. Ça l'empêchait de venir trop près de la comète. Donc, on avait des contraintes en termes de géométrie, de disponibilité de la communication avec Rosetta, que, heureusement, on n'a pas affronté avec Mascot, parce qu'on est sur un astéroïde et que donc c'est inactif comme objet. Et donc, aucun risque d'endommager le satellite pendant notre largage ou pendant la période où il est à notre disposition comme relais. C'est la première différence. La deuxième différence, qui n'est pas des moindres, c'est que sur Philae, on avait plus de place pour la pile et que donc on a tenu plus de 60 heures en opération. Ce qui laisse le temps de prévoir des boucles avec les ingénieurs qui sont au sol. On a le temps, même si ça met plus d'une demi-heure de trajet de signal entre Chury et la Terre, on a le temps de recevoir des données, de les analyser et éventuellement d'ajuster la suite du plan. Pour Mascot, on est sur un timing beaucoup, beaucoup plus serré. On est sur 12 heures, 15 heures si on a la chance en termes de durée de vie maximum. Et on a un temps de trajet de signal qui sera près de presque 20 minutes. On a 18 minutes, je pense, au début. Ce qui fait que ça nous rend quasi impossible cette mécanique de pouvoir ajuster en temps réel, attendre que ça revienne. Ça nous a obligés à faire preuve d'ingéniosité et à rendre le petit robot quasi autonome. On a bien sûr la possibilité de débrayer des choses. On se rend compte qu'on est dans une situation qui n'est pas du tout celle attendue. On peut dire, oh là là, on va arrêter tel instrument, on va arrêter telle activité, on ne va pas se déplacer. Mais on va pas. Si tout se passe bien, le petit robot mascotte va se gérer tout seul. Il va décider, il va regarder si c'est le jour ou la nuit, comment il est positionné, et puis il va décider lui-même des mouvements qu'il doit faire, des instruments qu'il doit lancer.
Ok, donc le choix de l'objet étudié, le volume du robot et des équipements, hein, qui demandent aussi d'imaginer peut-être un travail un peu différent. Hein, le prélèvement des échantillons à différents spots, à différents endroits, hein, de la surface de Roigu et aussi en profondeur de cet astéroïde qui est situé un peu très loin de nous. Hein. Madame Moussy, dites-nous maintenant, en tout cas ma prochaine question va vous paraître peut-être un peu bizarre étant donné que vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, vous partez un peu vers l'inconnu. Qu'attend-on clairement de cette mission Hayabusa 2 Mascot?
À grande échelle, je dirais, comme toutes les missions d'exploration vers les petits corps de comètes et astéroïdes, on attend d'en connaître plus sur la formation du système solaire, sur d'où venons-nous, d'où vient la planète Terre, comment s'est formée la planète Terre et comment sont apparues les briques essentielles à l'apparition de la vie. Ça, c'est de manière très, très générale. En plus en détail, l'idéal pour nous, ce serait de trouver que l'eau présente sur cet astéroïde Ryugu présente la même signature que l'eau sur Terre et pourrait donc être, ça pourrait être une preuve que l'eau terrestre viendrait en partie des astéroïdes. Là, ce serait une grande victoire pour nous. Mmh. Et également, trouver des molécules carbonées complexes jamais trouvées sur des astéroïdes pourrait être une seconde grande victoire. Mmh.
À plusieurs reprises à l'antenne de CFM, nous avons parlé de l'espace utile, c'est-à-dire comment l'aventure spatiale permet de changer notre quotidien, hein, que ce soit par les smartphones aujourd'hui, c'est-à-dire des choses complètement technologiques avec lesquelles on ne fait pas forcément le lien, le GPS, toutes ces choses-là. Est-ce que le challenge technique énorme que demande cette mission est aussi envisagé comme un prochain développement de notre technologie? J'imagine que ne serait-ce que la miniaturisation des équipements qui sont à bord du robot mascotte ont demandé de faire preuve de beaucoup d'innovation, même si j'imagine que vous n'allez pas tout nous dire, tout nous révéler là.
Oui, comme dans toutes ces missions d'exploration qui nous obligent parce qu'on va affronter des contextes difficiles et même inconnus, ça nous oblige à développer des technologies qui, même si elles ne rapportent pas d'argent sur le moment, vont à court, moyen ou long terme améliorer notre quotidien sur Terre. Donc on a cette mission, par exemple, le satellite Hayabusa 2 dispose d'une propulsion, d'une source d'énergie particulière qui a été testée cette fois-ci. On a des technologies de communication, des technologies, toutes sortes de technologies embarquées, que ce soit sur le robot ou sur le satellite, peuvent avoir des utilisations futures, même insoupçonnées par nous actuellement, hein, sur Terre. Mmh.
Quelles sont, est-ce que vous pouvez nous résumer les prochaines grandes étapes, hein, parce que peut-être entre-temps des auditeurs nous ont rejoints sur CFM Radio. Est-ce que vous pouvez nous résumer maintenant les prochaines étapes de cette mission Hayabusa 2 Mascotte?
Donc là, à venir, on a toute l'équipe là, qui commence à être mobilisée jour et nuit pour qu'on puisse choisir un site d'atterrissage pour Mascotte, mais aussi pour les collectes d'échantillons Hayabusa 2. Donc là, ça va être le prochain défi. À la fin de l'été, l'objectif est d'avoir choisi les sites d'atterrissage avec nos collègues japonais. Puis, Mascotte, là, je vous invite tous à rester connectés, parce que début octobre, c'est la grande aventure pour Mascotte. Mascotte sera détaché de Hayabusa 2 et il va se poser sur une boue et faire sa mission. Et ensuite, on a, avant la fin de l'année, une première collecte d'échantillons. Puis l'année 2019 qui verra la seconde collecte d'échantillons, la création d'un cratère sur le sol de l'égout par une charge explosive, la dernière collecte d'échantillons et le retour vers la Terre de la sonde Hayabusa. Mmh.
Donc un retour qui est prévu en 2020, hein, c'est ça, hein?
C'est ça, fin 2020 sur Terre.
Et poursuivre tout cela en direct, hein, en tout cas plus ou moins en direct, parce que les transmissions sont un peu longues. Hein. Il y a un compte Twitter, hein, Hayabusa 2 et Mascotte, qui permettent de suivre l'avancée de cette mission. J'ai vu ça. Ça permet, voilà, au grand public d'être à vos côtés, même si on peut pas vous aider grandement s'il y a un véritable problème, Madame Moussi.
Tout à fait. Donc il y a les comptes Twitter de Mascotte, il y a le hashtag Asteroid qui existe, il y a le compte Twitter de la JAXA aussi, de l'agence japonaise, qui met à disposition tout un tas d'informations. Il y a même un compte Twitter de la mascotte japonaise du satellite en lui-même. Les Japonais sont très friands de mascotte. Mm-hmm. Donc la mascotte s'appelle Ayatoukun. Par contre, je pense que les tweets sont tous écrits en japonais. Donc si vous voulez progresser en japonais, pourquoi pas. Et puis bien sûr, il y a le site, n'hésitez pas à aller sur le site du CNES et d'aller dans la presse générique, si je puis dire, qui devrait relayer ces opérations.
CNES.fr, et même si le sujet peut paraître complexe, compliqué, je vous invite à y faire un tour. Vraiment, l'équipe du CNES fait un énorme effort pour rendre accessible et vulgariser les connaissances sur l'espace et l'aventure spatiale. Ça fait plusieurs années que sur CFM Radio, nous nous intéressons à cela et c'est toujours un plaisir de discuter, de dialoguer avec les différentes personnes, les différents scientifiques, ingénieurs, chefs de projet, comme aujourd'hui avec Madame Moussi, sur des sujets qui nous semblent complètement farfelu, complètement compliqué. Est-ce que vous êtes, vous, confiante, Madame Moussi? Ça doit être stressant quand même de bosser comme ça des années sur l'inconnu au final.
Oui, c'est stressant, mais c'est ce qui fait aussi le sel de ces missions, hein, sur Chile, c'est pareil. Et je pense honnêtement que si le stress dépasse tout, on ne fait pas du bon travail. Donc pour l'instant, l'équipe est confiante et je pense que c'est le meilleur moyen d'aller vers le succès.
C'est une collaboration entre plusieurs agences, le Japon, la France et l'Allemagne. Donc il y a la JAXA, l'agence spatiale, d'aérospatiale du Japon. Il y a la DLR, le pendant allemand. Et puis le Centre National d'Études Spatiales Français qui travaille sur cette mission Hayabusa 2 et Mascotte. D'ici peut-être 2000, on va dire dans les années 2020, peut-être en saura-t-on un peu plus sur l'origine de la vie, la formation des planètes, du système solaire aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les manuels scolaires grâce à la mission dont on vient de parler aujourd'hui sur CFM Radio. Merci beaucoup, Madame Moussi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que sous la halle de Cordes sur Ciel, ce jeudi 26 juillet à 20h30, vous êtes en conférence pour nous parler de cette mission Hayabusa 2 Mascotte. Il sera également question de la prochaine mission sur Mars, c'est mars 2020, pour lequel le CNES travaille déjà ardemment. Il y a aussi une conférence qui sera portée sur les origines de la vie sur Terre. Merci, Madame Aurélie Moussi, d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Zone d'écoute, fréquence, adresse des studios et contact antenne, CFM, cfmradio.fr, tout CFM sur le net.
Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Sabba. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better, a suitable foolish girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. It's the only chocolate Jesus to satisfy my soul. Whiskey in the shade, best to wrap your saver up in cellophane. It blows like the big money, but that's okay. Oh, I'm over asking for my spy fame. Well, he got to be chocolate Jesus, good enough for me. Got to be chocolate Jesus. Satisfied.